Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés, puis je te remercie de ce que tu vas faire au milieu de nous. Je te remercie pour ta parole qui est vraie, qu'on va entendre, puis qu'on va baser notre foi là-dessus, puis on va saisir tes promesses, Seigneur, ce matin. Que ton esprit agisse avec puissance au milieu de nous et prenne toute la place dans nos vies. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, revêt-nous de ta puissance, équipe-nous de tes dons, et je te remercie de ce que tu vas faire au milieu de nous, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On continue la petite série, la mini-série sur saisir les promesses de Dieu. Aujourd'hui, je sais que la plupart d'entre vous connaissent le sujet qu'on va parler parce qu'on en parle régulièrement. C'est important qu'on se maintienne là-dedans parce que ça se peut que je sois bien disposé aujourd'hui puis que j'étais déjà dedans. Puis que dans un mois, je sois sur un dent, puis j'ai besoin d'entendre ces paroles-là pour me ramener, remotiver, me redonner la vision, puis continuer à avancer avec les paroles de Dieu. Le sujet de saisir les promesses de Dieu, pourquoi ce matin? Pour être rempli du Saint-Esprit et manifester les dons spirituels. Il y en a qui vont dire, waouh, c'est quoi ça? Mais vous devez savoir ce matin, pour ceux qui ne savent pas, que Dieu, dans ses promesses, une des plus grandes promesses, une des bénédictions que l'être humain peut goûter sur cette terre, c'est d'être en communion, en contact direct avec Dieu. De pouvoir recevoir Dieu dans sa vie, il n'y a pas rien de plus grand que cela. C'est beau de dire qu'on aimerait avoir un nouveau char, que notre compte d'électricité soit payé, toutes les choses qu'on aimerait comme promesses terrestres. Mais la possibilité qu'on a aujourd'hui de marcher en communion avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu lui-même, qui soit non seulement qui est en nous, mais il veut nous remplir, il veut nous revêtir, il veut nous équiper de dons, il veut se manifester à travers de nous pour rejoindre les autres. Ça, c'est puissant, c'est extraordinaire, puis il n'y a rien qui peut s'imiter dans ces choses-là, à part de ce que le diable peut essayer de faire. Mais il n'y a rien d'équivalent à une vie d'un être rempli du Saint-Esprit. C'est une des plus grandes promesses de Dieu de vouloir donner son esprit à ses créatures. Mais il n'y a rien qui est automatique. Tout doit être saisi par la foi. C'est par notre foi qu'on peut saisir cette promesse, comme c'est par la foi qu'on peut saisir toutes les promesses, et comme ça peut être par notre incrédulité qu'on vit rien, qu'il se passe rien dans notre vie, puis qu'on n'aura aucune promesse à cause du contraire de la foi, c'est l'incrédulité, le fait de ne pas croire. La foi, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu. Parce que c'est ceux qui ont la foi qui vont hériter des promesses. Puis sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Vous voulez vivre d'une manière qui plaît à Dieu? Pensez pas d'allumer des lampions puis ça va plaire à Dieu, ou de monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux, pensant que ça va plaire à Dieu. Ça sert à rien si t'as pas la foi dans la bonne affaire. Ça plaira pas aux genoux non plus. Dans Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voulez marcher d'une manière agréable à Dieu, commencez à marcher par la foi, puis vous allez commencer à plaire à Dieu. Je dis bien commencer, parce que notre vie entière doit être une vie de foi. Tous les jours, quand on se lève, il faut être encore dans la foi, la vraie foi, la foi en Jésus-Christ, la foi que Jésus nous a sauvés, qui a pardonné nos péchés, qui nous a donné le Saint-Esprit, qui nous éclaire par sa parole, puis que tu t'es engagé dans ce foi-là à marcher pour Jésus. C'est cette foi-là que Jésus s'attend de toi. Parce qu'il faut que tu crois que Dieu existe, puis c'est lui, Dieu, qui récompense ceux qui le cherchent. Fait que sans la foi, pensez pas de vivre les promesses de Dieu. C'est tout simple que ça, tout s'accomplit par la foi. De là l'importance pour les enfants de Dieu de croire en la parole de Dieu. Faut la prendre notre Bible, là, puis commencer à lire les promesses, puis à les réclamer par la foi. Abraham, quand il a reçu la promesse qu'il y aura un enfant, il a entendu, il a cru, il y a des bouts qu'il a douté, il y a des bouts qu'il a essayé de l'accomplir par lui-même. Mais c'était pas ça qui était le plan de Dieu. C'était la promesse est là, puis il fallait qu'ils s'attendent à ce que la promesse, puis même Dieu il a reconfirmé à d'autres moments qu'il était pour vraiment contre les étoiles, puis ça va être grand même le nombre de tes descendants. Puis lui était stérile, ou sa femme était stérile, puis il n'avait aucun enfant. Mais il voulait l'avoir, la promesse, puis finalement, il l'a reçue. Mais longtemps plus tard. Mais les promesses de Dieu sont pas tout le temps longtemps plus tard. Mais l'important, c'est de garder la foi dans les promesses tant et aussi longtemps qu'elle s'est pas accomplie. Si Dieu promet de quoi, c'est pour le faire. Il a pas promis ça juste pour faire semblant puis dire croyez à ça, là. Puis si vous y croyez pas, de toute façon, vous l'aurez pas. Non, Dieu, quand il promet de quoi, c'est parce qu'il veut le faire, puis il est capable de le faire. Puis si on saisit par la foi, on persévère tant qu'on ne l'a pas reçu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent croire en parole de Dieu afin de saisir les promesses et de grandir dans la foi. Qu'est-ce que ça fait quand tu es exaucé, comme notre sœur qui a raconté un témoignage un matin qui a été exaucé? Ça l'a-tu fortifié sa foi, pensez-vous? Puis le prochain coup qu'elle va vivre de quoi? Elle va-tu penser de la même façon? Ça l'a pas oublié, parce qu'on peut être des auditeurs oublieux, mais on peut être des gens qui repassent les choses comme Marie repassait dans son cœur ce qu'elle avait vu et entendu, puis elle les gardait, puis elle était capable de les retransmettre à ceux qui ont écrit les évangiles 20-25 ans plus tard. Elle n'avait pas oublié ce que Dieu avait fait. Puis il faut garder les miracles de Dieu, ce que Dieu nous a montré, il faut les garder bien clair. Dieu m'a déjà exaucé, puis Dieu m'exaucera encore. Amen. Parce que Dieu, il est fidèle dans sa promesse, dans ses promesses. Puis si tu veux grandir spirituellement, faut que tu grandisses dans la foi. Sinon, tu vas grandir dans quoi? Si tu n'as pas de foi, tu es un incrédule. Tu lis les passages parce que tu sais, il faut que tu lises la Bible. Mais en fin de compte, tu n'y crois pas. Puis t'es applique pas. Puis là, tu ne mets pas en pratique la parole. Puis là, tu es comme un homme qui se détourne du miroir, puis il oublie aussitôt qui il était. Mais si tu plonges tes regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et que tu persévères, c'est là qu'il va se passer des choses, puis on veut tous les vivre, ces choses-là. Amen. Gloire à Dieu. Toutes les étapes de la vie chrétienne s'obtiennent par la foi. Toutes. Que ce soit le démarrage de notre vie chrétienne, c'est par notre foi dans les promesses de Dieu que ça commence. Quand tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel, quand tu l'acceptes, quand tu réalises que t'es pécheur, puis tes péchés t'empêchent d'aller au ciel. Ton âme est souillée par tous tes péchés. Puis là, tu sais que tu peux pas rentrer au ciel à cause que ces péchés-là t'empêchent. Mais si tu sais que Jésus est mort sur la croix, qui a versé son sang pour pardonner tes péchés et te purifier de tes péchés, là, ta foi commence à s'allumer. Tu le sais, là, il faut que tu fasses l'acte. Faut que tu prennes le pas de dire, « Oui, Seigneur, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Je le crois qu'il est mort sur la croix pour moi. Je l'accepte comme mon sauveur puis comme mon Seigneur. » Là, tu t'engages à le suivre et à le servir tous les jours de ta vie. Qu'est-ce que ça fait de toi à cause que tu mets ta foi dans une promesse de Dieu? Mais tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens pardonné de tes péchés, tu nais de nouveau, tu reçois le Saint-Esprit, puis la nouvelle vie commence là, d'être sauvé par la foi. C'est par la foi que tu saisis tout ça. Dans Romains 5, 1, ça nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » On est rendu juste par notre foi. Maintenant, on peut avoir la paix avec Dieu. Sans passer à saisir par la foi la promesse, tu peux pas avoir la paix avec Dieu. Même si tu commencerais à pratiquer une religion, même si tu irais dans une église évangélique, si tu n'as pas passé par la porte qui est Jésus pour recevoir le pardon, puis là, tu te dis, moi, j'ai pas le temps vraiment là, je suis bien occupé, j'ai bien d'autres choses à faire. Ou, achale-moi pas que ces affaires-là. Je vais à l'église, mes grands-parents allaient à l'église, mes parents allaient à l'église, moi, je vais à l'église, j'emmène mes enfants à l'église, mais demande-moi-en pas plus. Je veux pas m'engager. Ceux qui pensent comme ça, ils saisissent pas par la foi. Ils sont incrédules. La foi exige des gestes, des pas, des choses concrètes, confesser de ta bouche, t'engager, puis si tu bâtis ta vie sur qu'est-ce que tu entends qui vient de la parole de Dieu. Toute ta vie va changer. Ça sera pas juste une théorie, la foi. Ça va être une démonstration de ce que tu crois. Tu vas le vivre chaque jour de confesser que tu crois en Jésus, tu crois qu'il est mort pour pardonner tes péchés, puis tu vas aller le dire aux autres. Tu vas aller dire aux autres qui ont besoin de Jésus pour être sauvés, puis que c'est le seul moyen pour être sauvé. Amen.
Amen.
Même les réponses à nos prières sont le résultat de notre foi. Parce que Dieu répond à notre foi. Quand les gens s'approchaient de Jésus pour être exaucés, « Que veux-tu que je fasse? » Là, disant « Que je recouvre la vue. » Il dit « Va, ta foi t'a sauvé. » C'est quand tu as une foi, tu le sais que Jésus peut te sauver ou qu'il peut te guérir ou qu'il peut te délivrer. Tu as la foi, mais si tu as la foi, tu vas faire des pas puis tu vas le demander à Jésus. Puis tu vas lui dire, « Seigneur, que je recouvre la vue, parce que tu sais qu'il peut te la redonner, la vue. » Tu as la foi. Puis quand tu as la foi, tu persévères dans ta prière, puis tu tires sa robe, « Seigneur, c'est pas une robe, c'est une tunique. Tu tires sa tunique, « Seigneur, exauce-moi. » Puis tu vas tirer jusqu'à quand après sa tunique pour être exaucé? Jusqu'à temps que tu sois exaucé, il est important, frères et sœurs, qu'on persévère dans notre foi, puis qu'on persévère jusqu'à temps qu'on ait la réponse à notre prière. Pis c'est ça qui est la vraie foi. Ceux qui demandent une fois, deux fois, trois fois, puis ils abandonnent de prier, ben c'est de l'incrédulité, c'est du relâchement, tu n'obtiendras pas. Ou si tu demandes en doutant, mais imagine-toi pas que tu vas recevoir quelque chose du Seigneur, tu es un homme irrésolu, inconstant. C'est ça qu'on a besoin, d'être résolu, d'être constant, puis on demande tant aussi longtemps qu'on l'a poursu, puis on doute pas. Puis qu'est-ce que Dieu va faire à ce moment-là? Il répond aux prières. Matthieu 21-22, ça nous dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Gloire à Dieu! C'est miraculeux, c'est puissant, c'est extraordinaire. La foi, là, est importante. Même la foi, même la communion avec son esprit, hein, garder cette communion, puis vivre des dons spirituels, hein, c'est à la mesure de notre foi. Dieu force pas personne pour manifester ses dons, mais il nous demande d'aspirer, il nous demande de prier, il nous demande de chercher sa face, de se maintenir rempli du Saint-Esprit. Si on veut vivre charnellement, on se laisse aller, c'est bien facile. Mais marcher rempli du Saint-Esprit, c'est pas facile. Ça prend de la discipline, ça prend une vie engagée, une vie qui veut sanctifier, qui veut chercher à être rempli, il prie, il loue le Seigneur, il se maintient pour être maintenu rempli du Saint-Esprit. Dans Galates 3:14, ça nous parle de ça, que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. On a reçu par la foi l'Esprit qui était promis. C'est encore à cause de notre foi qu'on reçoit le Saint-Esprit. Si je vous pose la question ce matin, avez-vous la foi que Dieu veut vous pardonner? Que Dieu vous a pardonné pour ceux qui l'ont accepté, que Dieu vous donne son esprit, qui vous l'a donné à votre conversion, ou que Dieu peut vous la donner si vous vous convertissez. Avez-vous la foi en ces choses? Posez-vous la question, parce que si vous voulez rentrer dans la vie éternelle, il faut absolument que vous passiez par là. Puis il faut que vous persévériez dans cette attitude-là de foi jusqu'à la fin. Il faut arrêter de regarder les autres qui ne suivent pas Dieu. Ceux qui sont autour, là, puis qui font une vie nonchalante, puis ils se permettent de pécher dans tous les péchés qui lui passent devant eux, puis ils se lancent, là, puis ils pratiquent tout, puis ils ont comme une compétition, celui qui coucherait avec plus de filles, que celui qui pourrait mentir, voler, prendre la drogue, puis celui qui aurait pris le plus gros trip de drogue, « moi, j'ai pris 3 acides », puis là, il raconte, puis il se vante de ses trips. Savez-vous que toutes ces choses-là entraînent ces gens-là dans l'étang ardent de feu et de soufre pour l'éternité? Parce que leur péché souille leurs âmes, puis ils ne pourront pas rentrer au ciel à cause de ça. Puis la seule manière pour rentrer, il faut que tu passes par Jésus, puis tu sois pardonné de tout cela, puis que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est là que ta nouvelle vie va commencer, une vie de contact, de communion avec l'Esprit de Dieu. C'est par la foi que tu vas aller le chercher. Faut que tu mettes ta confiance en Dieu. Faut que tu arrêtes de penser à ce que les autres font, puis tu t'engages à suivre Jésus-Christ pour devenir son disciple. Dans l'Ancien Testament, là, ça nous parle des hommes selon le cœur de Dieu. Hein? C'est qui était l'homme selon le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament?
David.
Puis dans un psaume de David, dans le psaume 138, le verset 1, on voit que ceux qui ont le cœur selon Dieu savent que Dieu exauce les prières. Psaume 138, ça nous dit de David. Non, ça nous confirme, c'est David qui a écrit ce psaume. Puis on voit que David marchait dans louange puis dans prière. Ça le dit tout de suite au début. « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. » C'est un homme de prière puis de louange. « Je me prosterne dans ton Saint-Ange et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. » À cause que Dieu est bon puis que Dieu est fidèle. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Il se met à louer Dieu, il se met à prier Dieu, puis il est fier d'être là dans le temple de Dieu parce que Dieu est bon et Dieu est fidèle. Il est fidèle dans quoi, Dieu?
En toute chose.
En toute chose, mais particulièrement dans l'exaucement de ses promesses. Parce que quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. C'est ce qu'il nous dit. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Dieu s'y est déclaré fidèle, c'est parce que sa renommée est répandue, parce que Dieu exauce ses promesses. Selon ses promesses, il accomplit ses promesses. Dieu, quand il a un plaisir à manifester ses promesses pour qu'ils s'accomplissent, Dieu prend plaisir à cela, mais ça prend juste des gens comme David, qui réalise qu'un cœur selon Dieu. Ils se maintiennent dans prière, dans louange, dans le temple. C'est dans l'église pour venir louer le Seigneur. Puis de dire à Dieu, Seigneur, t'es bon, Seigneur, t'es fidèle, parce que ta renommée s'est répandue, parce que tu es celui qui accomplit ses promesses, comme qu'il le dit. Y croyez-vous?
Oui.
Il continue, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Le jour que je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. C'est-tu pas fidèle aux promesses? Notre sœur, elle a dit qu'elle a invoqué le Seigneur, puis elle a été exaucée. Donc, Dieu, il est bon, puis Dieu, il est fidèle. Gloire à Dieu. C'est-tu juste pour elle? Pour chacun de ceux qui sont ici, il y en a aussi grand nombre que le Seigneur va les appeler. Lorsque Jésus apparut après sa résurrection, il apparut à ses disciples. Quel est le reproche qu'il adressa à ses disciples? Dans Marc 15, 14, c'est tout de suite après sa résurrection. Faut pas être comme ça, frères et sœurs. Il apparut aux 11 pendant qu'il était à la table. Jésus, là, après qu'il soit mort, il est ressuscité. Puis il a apparu pendant 40 jours qu'il a apparu à ses disciples. Puis il a apparu à des moments qui étaient juste un ou deux, mais des moments qui étaient les 11 étaient là. Pourquoi les 11? Parce qu'il était 12. Puis Judas, il s'est suicidé. Puis après ça, il a apparu à plus de 500 personnes en même temps. Mais une fois, là, il était parmi les 11, il a apparu dans la pièce, direct comme ça, puis il a commencé à parler. Et pendant qu'il était à la table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Pourquoi? Ça, c'est dans Marc 15, 14, si je ne me suis pas trompé de verset. C'est peut-être 16 d'abord, je ne sais pas. Non, c'est peut-être 15. 16, je veux dire, Marc 16, 14. 16. Je vais être corrigé. Mais avez-vous un doute que c'était écrit dans la parole?
Non.
Fait que. Puis le verset, j'ai pas le bon verset, là. 14? Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. À propos de quoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru qu'ils l'avaient vu ressusciter. Est-ce que Jésus les avait avertis d'avance aux disciples qui étaient pour ressusciter? Qu'il passe, il s'arrête comme Jonas qui était 3 jours dans le sein de la terre, de même le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Puis le but, c'était pourquoi, quand il lui disait ça? C'était pas juste une information comme dans le journal, tu jettes le journal après ça, puis oublie ça, c'est pas important. Non. Jésus, quand il lui disait ça, c'était comme une promesse. Je vais ressusciter. Puis je vais revenir vous voir. Puis quand les disciples, ça s'est accompli, bon, ils doutaient, puis ils croyaient pas. Puis Jésus dit, pourtant, c'est une promesse que je vous ai dit. Je vous l'ai promis que je ressusciterais. Jésus ne leur donnait pas la permission de douter. Parce qu'il dit, c'est de l'incrédulité, puis c'est de la dureté du cœur que ces gens-là avaient. Un cœur dur, puis est incrédule. Jésus, c'est pas ça qu'il appelle ses chrétiens, ses enfants. Il les appelle pas à avoir un cœur dur et douter. Il les appelle à croire. À saisir par la foi tout ce qu'il a promis. Tu l'as écrit, Seigneur. Je le saisis, puis j'avance avec ça.
Amen.
Amen. Qu'est-ce qui est arrivé pour que les apôtres reçoivent le baptême du Saint-Esprit?
Ils ont persévéré.
Première chose, quand ils ont entendu la promesse dans Acte 1, le verset 12, ils retournèrent à Jérusalem, suite après qu'ils aient vu Jésus monter au ciel, là. Tout était dit, là. Les paroles, Jésus les avait dit que vous allez recevoir la puissance. Ils l'ont vu monter au ciel, puis les anges ont dit, c'est Jésus-là qui est monté, vous allez le voir revenir de la même façon. Les premiers réflexes qu'ont eu les disciples à ce moment-là, bien, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne des Oliviers, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinairement. C'était le lieu de prière. Tout de suite, Jésus remonte, il me dit d'attendre la promesse. Tout de suite, ils sont partis, ils sont allés dans la chambre de prière, tout de suite, pour obtenir ce que le Père avait promis. Puis là, il donne les noms pour verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ils ont reçu la promesse, attendez, vous allez le recevoir. Tout de suite, ils sont flyés, ils sont allés tout de suite dans la chambre haute, ça s'est mis à prier. « Seigneur, on veut ta promesse, on veut recevoir le Saint-Esprit, le revêtement de puissance. Dans peu de jours, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est en courant. Ils se sont pas niaisés, puis ils se détournaient. « Ta minute, faut que j'y aille chez IGA. J'ai des commissions à aller faire ou à aller faire d'autres choses. » Non, tout de suite. En prière, c'est une priorité, c'est une urgence. Je dois prier jusqu'à temps que je le reçoive. Ils viennent de me le dire que c'est une promesse que je dois avoir là. Parce qu'ils venaient de lui dire, pourquoi vous avez eu un cœur incrédule pas croire en promesse juste un peu avant? Fait que là, quand on reçoit une autre promesse, c'est on veut pas manquer celle-là. On veut pas se faire dire par le Seigneur, je suis un incrédule. Ils l'ont saisi, puis ils allongent pas jusqu'à temps qu'elle s'accomplisse. Puis sur quoi qu'il se basait pour prier, comme qu'il venait juste de lui dire, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, dans Luc 24, 46, il est écrit que le Christ va souffrir, qu'il va ressusciter des morts le troisième jour, puis que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations. » Puis là, il dit à ses disciples, « Vous êtes témoins de ces choses, de la résurrection, des souffrances du Christ, puis de la réception du Saint-Esprit. » Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à soyez revêtus de la puissance d'en haut. Là, Jésus venait leur dire ça. Ils ont saisi cette promesse-là, ils sont partis dans la chambre haute, se sont mis à prier, tant et aussi longtemps qu'ils l'ont poursu. Pourquoi? Sur quoi qu'ils se basaient les disciples? Ainsi qu'il est écrit. Donc, c'était déjà promis dans l'Ancien Testament que le Christ souffrirait, puis tu le quittes, puis c'était écrit qu'il prendrait le pardon des péchés sur ses épaules, c'est lui qui l'accomplirait. C'était écrit qu'il ressusciterait, puis c'était écrit qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Puis là, il dit, vous êtes les témoins de ces choses, puis je vais vous l'envoyer ce que le Père a promis. Où qu'il avait promis, c'est dans l'Ancien Testament, dans les autres versets qu'on peut aller lire, mais on ne les lira pas aujourd'hui. Dieu avait déjà promis de répandre son esprit. Puis là, il lui dit, restez là tant que vous ne l'avez pas reçu. C'est pour ça qu'ils sont partis de suite, puis ils ont resté là tant qu'ils ne l'ont pas reçu. Jésus nous appelle à être des témoins. Des témoins qui est vraiment ressuscité, des témoins qu'on peut recevoir le pardon des péchés, des témoins qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on croit en Jésus. Tu peux pas être un chrétien sans passer par ce chemin-là. Faut que tu reçoives cela, puis tu le gardes par la foi. Puis c'est ça, faut que tu confesses aux autres, afin que les autres puissent le recevoir. Dans Actes 1-8, dans les mêmes temps qu'apparaissait, il lui dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va être sur vous, vous allez être mes témoins. Mais pour recevoir la promesse du Saint-Esprit, il faut être capable de s'attendre aux promesses puis de prier. C'est ce que les disciples ont fait. Ils ont été dans la chambre haute. Tant qu'ils l'ont pas reçu, ils ont prié. Mais pour nous aujourd'hui, la même promesse est là. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez être revêtu du Saint-Esprit. Vous pouvez laisser le Saint-Esprit agir à travers vous par les dons spirituels. Puis cette même promesse-là qui était valable là, 2000 ans est encore valable aujourd'hui, 2000 ans plus tard.
Amen.
C'est pour qui ces promesses-là? C'est pour tout le monde. Mais il faut être capable d'attendre si on l'a poursu. D'attendre de le recevoir, confesser à Dieu en prière, se mettre en prière. Seigneur, je le veux, le Saint-Esprit. Je le crois que Jésus est mort sur la croix. Je l'accepte comme mon sauveur. Je m'engage à le suivre et à le servir. Ça, c'est la repentance et la conversion. C'est ça qui sera prêché dans le monde entier. Quand une personne le fait, l'a amené de nouveau. Elle reçoit le Saint-Esprit. Cette nouvelle vie-là commence, puis là est un témoin. C'est ce qu'on voit dans Acte 3, tout de suite après, quand il leur a dit d'attendre, puis que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous allez être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est le verset 5 dans Acte 1-5. Les disciples n'ont pas fait ni une ni deux, puis se sont mis en prière. Est-ce que nous, on est prêts à faire la même chose pour vivre la présence et la puissance de Dieu? Est-ce qu'on le veut être baptisé du Saint-Esprit? Dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Il n'a pas juste dit que vous le recevrez. Parce que juste un peu avant, dans le jardin, quand il était ressuscité, il avait soufflé sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais dans la promesse de Actes, c'est d'être revêtu, baptisé. Là, la puissance qui fait de toi un témoin, elle commence à ce moment-là. Ça se peut que tu le reçoives au jour de ta conversion, mais ça se peut que tu le reçoives au bout de persévérance. Tu demandes le baptême du Saint-Esprit. Tu veux le baptême du Saint-Esprit. Si tu veux saisir cette promesse-là qui est faite pour tout le monde, tu vas l'avoir. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous parlent comme promesse que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui l'ont reçu, vous l'avez vécu, je fais juste confirmer ce que vous savez déjà. Mais je parle en même temps pour renouveler aussi dans la présence de Dieu, renouveler dans la puissance de Dieu. Puis pour ceux qui l'ont pas reçu, Jésus, pour que vous puissiez le recevoir et pouvoir recevoir le Saint-Esprit, pour que votre vie change. Parce que dans Actes 2:38, ça nous le dit, une des promesses de recevoir l'Esprit-Saint, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Ça, c'est la première étape. « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est la deuxième étape. Puis tu peux pas recevoir le don du Saint-Esprit sans t'avoir repenti et croire en Jésus. Faut que tu passes par Jésus pour recevoir le pardon. Après ça, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Là, il leur dit une promesse extraordinaire au verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. On fait partie des appelés. On était appelés à recevoir cette promesse, puis on l'a saisie par la foi, puis on garde, on saisit cette promesse-là, puis on l'avait encore aujourd'hui, 30 quelques années plus tard, puis dans 30 ans, il faut que je sois encore en train de la demander, puis un autre 30 ans de plus, ça va être... faut pas lâcher. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que la promesse n'est pas juste pour les hommes d'un certain âge, la promesse est aussi pour nos enfants. Qu'un enfant que 6 ans, 8 ans, 10 ans peut être baptisé du Saint-Esprit, comme elle peut être pour les vieillards de 90 ans, Et 100, 120. Dans Actes 2, 14, ça nous le dit que cette promesse-là, c'est pour tout. Dans Actes 2, 14, Pierre, il a élevé la voix, puis il leur parla en ces termes, puis là, il lui dit, « Homme juif, vous qui séjournez en Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ça veut dire, mettez votre foi dans ce que je suis en train de vous dire. Ouvrez vos oreilles, écoutez ce que je dis, c'est important, là, ce qui va être dit. Là, c'est tout de suite après qu'il ait été baptisé du Saint-Esprit, puis la puissance de Dieu était là. C'était tellement puissant que les gens étaient rendus, que les autres disaient, ils ont de l'air d'une gang de gossous. Ils ont de l'air rive tellement qu'ils sont bénis d'être remplis du Saint-Esprit. Il se passait quelque chose de visible à l'œil humain. Il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est la troisième heure du jour, ça veut dire que t'as rien que 6 heures le matin, ou 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ça, c'était une promesse de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dit, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges, des miracles, puis etc. Puis là, au verset 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est là que ça commence. T'invoques le nom du Seigneur, tu vas être sauvé, Dieu va répandre son esprit, puis tu vas te mettre à prophétiser. Ça, c'est les dons spirituels. Puis ça, c'est pour qui? Vos fils et vos filles, les jeunes gens, les vieillards, les serviteurs et les servantes. Il dit, sur mes disciples, sur que tel âge que ça voudra, ça n'a pas d'importance. Tu as la foi, invoque le Seigneur, il va pardonner tes péchés. Puis après ça, tu vas recevoir cette effusion-là de l'Esprit. Puis quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, là, il se passe quelque chose. Des prophéties, des songes, des visions, des miracles, des signes, des prodiges, des exaucements de prières. Il se passe toutes sortes d'affaires quand tu reçois le Saint-Esprit.
Amen.
Gloire à Dieu! C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut.
Oui.
On les veut pas juste aujourd'hui, on les veut à tout le reste de notre vie. On veut voir la gloire de Dieu dans notre vie. Quand tu n'as pas accepté Jésus, tu es privé de sa gloire. Mais quand tu as accepté Jésus, il n'y a pas de raison que tu ne vois pas la gloire de Dieu. À part que si tu es un crédule et un cœur dur. Parce que ceux qui ont la foi et la persévérance héritent des promesses. Puis tu as beau l'avoir vécu il y a 30 ans, mais est-ce que tu le vis encore aujourd'hui? Puis si tu ne l'es pas dedans, il est temps que tu renouvelles ton cœur à te repentir, la même chose, regarde où ce que tu as tombé, repens-toi et repratique tes premières œuvres pour revenir dans l'état où ce que tu étais, humble et repentant en confessant que c'est Jésus qui te sauve, puis que tu reçois encore avec joie, comme un enfant qui est excité de recevoir le Saint-Esprit puis de vivre des dons spirituels. Puis si vous les avez jamais vécus, mettez-vous à prier, c'est une promesse du Père. C'est une promesse de Dieu le Père. C'était écrit même dans l'Ancien Testament. C'était revenu dans le Nouveau Testament. Puis c'est pour nous, pour nos enfants. Il y en a aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen.
Amen.
On le veut-tu?
Amen.
Puis là, il y a un paquet de promesses, de miracles qui vont accompagner ceux qui ont la foi. Dans ces versets-là qu'on vient de lire, il y en a plein. Des promesses de miracles, des prophéties, des visions, des songes, puis des miracles d'en haut dans le ciel, sur la terre. Peu importe, Dieu il va faire toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Il l'a dit aussi dans Marc 16, le verset 16. Il dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Yeshua et Amashia, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils vont saisir des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne refera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Puis là, ça nous dit, le Seigneur, après les avoir parlé, Il fut enlevé au ciel, puis il s'assied à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça, on ne la lit pas souvent, mais Dieu, Jésus-Christ, accompagne ses disciples, puis accompagne la prédication par des miracles. Puis Dieu veut le faire encore aujourd'hui. Moi, je le crois sincèrement. Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Nous, est-ce que nous maintenons notre foi? Puis si nous l'avons relâchée, ce matin, ressaisissons-nous dans la foi, puis mettons notre foi dans les promesses de Dieu. C'est ça qui est le but de la prédication. Saisissons les promesses d'être remplis du Saint-Esprit puis de manifester les dons spirituels. Dans Actes 2, 33, ça nous dit que Jésus, il a été élevé par la droite de Dieu, puis il a reçu le Saint du Père, le Saint-Esprit qui avait été promis. Puis il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne, ça se voit puis ça s'entend. Il se passe quelque chose, c'est extraordinaire. C'est ça la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est pas l'humain. C'est le Saint-Esprit qui agit en réponse à l'accomplissement de la promesse du Père. N'oubliez pas ça, c'est une promesse de Dieu. Comment le reçoit-on en nous? C'est ça qui est les petites étapes bien importantes à comprendre. La réception de l'Esprit est suite à notre foi qui écoute la prédication. Dans Galates 3, 2, Paul y dit aux Galatiens, « Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Nous recevons le Saint-Esprit par la prédication de la foi. Qu'est-ce que je suis en train de faire un matin, vous pensez? Je suis en train de prêcher la foi. Puis c'est là que le Saint-Esprit se reçoit. Quand on met notre foi dans ce qu'on entend des paroles de foi qui sortent de la prédication. Corneille, là, il était là, puis pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit, eux autres, ils avaient la foi dans tout ce qu'ils entendaient, le Saint-Esprit est tombé sur eux comme les apôtres l'ont su à la Pentecôte. Puis il y a eu des signes, des miracles, il y a eu des prophéties, parlant en langue, toutes les manifestations étaient là. C'est là que ça se passe, frères et sœurs. Puis la manifestation, là je parle de réception de l'Esprit, mais il y a la manifestation de l'Esprit est suite à notre foi qui écoute la prédication. Vous allez voir aussi dans Galates 3, 5, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Fait que Dieu vous accorde l'Esprit, il vous le donne suite à votre foi que vous saisissez la prédication, et Dieu se manifeste par les dons spirituels, par votre foi qui va saisir encore la prédication. C'est de même que ça se passe. Les gens, faut qu'il y ait quelqu'un qui parle, comment croiront-ils s'il y a personne qui prêche? Quand il y en a un qui prêche, c'est là qu'on peut le recevoir. On le saisit par la foi, puis on garde notre foi dans ça, puis c'est là que Dieu accorde son esprit, puis c'est là que Dieu manifeste. Il opère des signes parmi vous, des miracles, on veut-tu y voir? On veut-tu voir l'accomplissement de la promesse du Père? Moi, je le veux. Puis, il faut comprendre que quand même, là, notre foi, il faut qu'elle soit plus que juste le croire. Il faut qu'il y ait un petit quelque chose qui... Une action. Si tu démontres que tu crois, c'est pas juste je le crois en dedans de moi, là, puis Dieu me le donnera quand en dedans de moi, il me répondra. Non, il veut qu'on fasse des pas. Autant qu'il veut qu'on confesse qu'on croit en Jésus-Christ, il veut qu'on le confesse de notre bouche. Celui qui confesse de sa bouche, le Seigneur Jésus, puis s'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Faut que tu le crois, oui, mais faut aussi que tu le confesses. « Ah, ben Dieu, il entend mon cœur. » Non, Dieu veut pas entendre ton cœur, il veut entendre ta bouche qui s'engage à le suivre et à le servir. C'est quand tu le confesses que là, tu fais des pas. Quand vous êtes marié, elle vous dit au curé, dans votre cœur, « Oui, je le veux. » Non, il fallait que tu le dises de ta bouche, « Oui, je le veux. » C'est là qu'ils l'écrivent sur le papier. Tant qu'ils l'ont pas entendu, tu t'es pas réellement engagé. Mais c'est la même chose avec Jésus. Il veut que tu le confesses devant les hommes. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et quiconque me reniera, je le renierai aussi devant mon Père. Mais la prière est le moyen pour être rempli. Qu'est-ce qu'ont fait les disciples quand ils ont eu la promesse? Ils l'ont saisi par la foi, la promesse. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'ils se mettent à la confesser dans leur prière, la promesse. Ils sont partis dans la chambre haute et se sont mis à prier. Amen.
Amen.
Dans Actes 4:31, un autre passage qui nous parle justement de ça. Quand ils eurent prié, le lieu où ce qui était assemblé trembla, puis ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Là, on parle de gens qui avaient déjà été remplis dans Actes 1 et 2. Ils l'avaient déjà reçu, mais dans Actes 4, ils avaient besoin encore de faire le plein. Ils se sont mis à prier, puis ils ont été encore remplis. S'ils étaient déjà remplis, ils n'auraient pas pu être re-remplis. Ils sont pleins. Là, on parle de gens qui s'étaient vidés. Ça veut dire que le Saint-Esprit t'est pas plein en permanence. Faut que tu pries pour le redemander, puis le redemander, puis je le redemanderai demain, puis je chercherai encore à être rempli sur le lendemain. Là, je parle à ceux qui l'ont déjà reçu. Faut que tu te maintiennes rempli. Puis pour te maintenir rempli, quand tu le pries, tu demandes, tu vas l'être. Là, tu peux te maintenir dans la plénitude de l'Esprit en louant le Seigneur. Dans Éphésiens 5, 18, ça nous dit, « Ne vous inivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous. » C'est un entretien pour ceux qui l'ont reçu. « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses, à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Fait qu'une fois que tu l'as reçu, tu continues à le chercher. Tu pries pour être maintenu rempli, puis tu te maintiens dans la louange. À louer le Seigneur. Pourquoi qu'on pense qu'on va être rempli quand on loue le Seigneur? C'est écrit dans la parole. Il dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est quand qu'on loue le Seigneur que Dieu se tient là. Dieu se tient pas dans les bars. Il se tient pas dans les hôtels. Il se tient pas dans les places de nudistes. Il se tient pas dans le péché. Dieu se tient dans la louange. C'est là son spot favori pour passer une soirée. Dieu, son spot favori pour passer une soirée, c'est dans la louange. Quand il y a un spot où il y a deux ou trois qui s'accordent pour prier puis louer, Dieu est là, puis Dieu il aime ça. Puis il veut être là ce matin avec nous. Croyez-vous cela? Puis c'est pour ça aussi qu'on a fait un peu inverser la réunion, parce qu'on veut louer le Seigneur ce matin. On veut prier, on veut louer le Seigneur. Il y en a qui vont pouvoir être sauvés s'ils veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Il y en a qui vont pouvoir recevoir le Saint-Esprit, puis il y en a qui vont être renouvelés pour être remplis du Saint-Esprit, puis il y a des choses visibles qui vont se passer quand on va louer le Seigneur. Quand il dit qu'il y en a qui vont prophétiser, quand ton esprit est reçu, ils reçoivent des paroles dans leur cœur. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent dans ce moment-là? Faut qu'ils laissent sortir de leur bouche ces paroles-là. C'est bien beau de dire, oh, j'ai entendu le Seigneur me dire telle affaire. Ben oui, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Une prophétie, il faut que ça sorte de ta bouche. Un songe, comme clairement, il a dit qu'il y a eu un songe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a confessé de sa bouche, il a dit son songe. Puis il a donné l'explication. Mais si vous avez des songes, des visions, des prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le discernement des esprits, où vous avez à cœur de prier pour quelqu'un, faut le faire. Comment est-ce que je vais voir qu'une guérison s'est accomplie si je prie pas pour la personne? Mais tout se passe si vous avez la foi. Si vous dites, oh ben c'est pas pour moi, je suis trop petit. Mais Dieu, il dit justement, c'est pour les petits aussi, puis les faibles, puis les servantes, puis les enfants, puis les jeunes gens, puis les vieillards. Il n'y a pas personne d'exclu là-dedans. Dieu veut manifester ses dons dans tous ses disciples. C'est-tu beau, ça? La louange est un signe de notre foi. Quelqu'un qui a pas une grosse foi, il n'est pas porté à louer. Lui, il vit sa vie humainement parlant, charnellement, puis il se contente de ça. Mais quelqu'un qui vit des choses, il va s'exclamer, il va prier, il va rendre des actions de grâce à Dieu le Père, il va remercier le Seigneur quand il est exaucé dans une prière, il va le confesser aux autres, puis s'il y a des paroles, il va les dire, puis tout le monde va être béni dans tout cela. Puis pour se maintenir rempli, ça exige un entraînement dans la prière et dans la louange. Je fais un appel ce matin pour ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ ou qui s'y réalisent qu'ils l'ont déjà accepté, mais que ce n'était pas sincère. Puis que vous n'aviez pas vraiment reçu le Saint-Esprit. Vous n'avez pas encore expérimenté d'être rempli du Saint-Esprit. On va prendre un temps, là, je vous demande de lever votre main. Si vous voulez accepter Jésus-Christ, je vais prier avec vous pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Puis ça se passe ce matin. Attendez pas demain ou après-demain ou dans 10 ans. Vous dites, je suis trop jeune pour l'accepter. Je veux vivre ma vie. Vous savez pas si vous allez être encore vivant ce soir. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, si ça vous attire ce que vous entendez, endurcissez pas votre cœur, recevez-le maintenant. Pour ceux qui n'ont pas conscience que le Saint-Esprit est en eux et qui veulent le recevoir, levez votre main. On va prier avec vous. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Puis, ceux qui ont levé leurs mains, avancez-vous en avant, on va prier avec vous. Pour que vous puissiez recevoir la présence et la puissance de Dieu. Alléluia. On va prier, puis après ça, on va rentrer dans la louange. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Je sais qu'il y en a d'autres dans la salle qui ont entendu l'appel du message de Jésus-Christ, puis qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. N'attendez pas. Faites-le pas. C'est pas pour me faire plaisir que vous êtes là. C'est devant Dieu, puis c'est par la foi en Dieu, dans ses promesses, que vous allez recevoir le Saint-Esprit, puis que vous allez être sauvés, puis que vous allez pouvoir vivre des choses extraordinaires dans votre vie.